verset le plus célèbre de toute la Bible, c'est lequel d'après vous? Jean 3, 16. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. C'est le premier verset généralement que les enfants apprennent à l'école du dimanche. Mais il va s'afficher, voilà, c'est fait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. On raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est allé dans un verger pour voler les pommes du propriétaire du verger. Et voici que ce jeune garçon a été pris sur le fait, en flagrant délit. Le propriétaire l'a attrapé et l'a conduit vers un panneau à l'entrée du verger sur lequel il était écrit « Quiconque volera des pommes sera puni. » Et l'homme de lui dire « Tu vois, quiconque, c'est toi !» Et puis le temps a passé. Le petit garçon est devenu un homme. Et un jour, cet homme est venu entendre la prédication de l'Évangile. Et ce jour-là, le prédicateur a cité ce verset que nous venons de lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il y a eu une espèce de flashback, de retour dans son esprit. Et il s'est dit, se souvenant de cette vieille affaire, « Quiconque, c'est moi !» Et il a reçu par la foi le salut qui est en Jésus-Christ. Et ce matin, eh bien, quiconque, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est elle, c'est l'autre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est question là d'amour, de l'amour de Dieu. Car la Bible dit, certains l'ont cité là, Dieu est amour. C'est l'essence même de son être. Il se définit comme étant un Dieu d'amour. Au fait, l'amour authentique, voyez-vous, chers amis, frères et sœurs en Jésus-Christ, l'amour authentique se manifeste toujours par le don, par le fait de donner. Il ne s'agit pas de revendiquer, d'exiger que l'on nous aime, mais il s'agit plutôt de choisir, de répandre, de communiquer, de déverser notre amour sur les autres en donnant et en se donnant. D'ailleurs, dans la première épître de Jean, au chapitre 3, verset 16, vous voyez, il y a Jean 3, 16, et puis il y a 1 Jean 3, 16, qui dit ceci, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec lui. Voilà. Et c'est ainsi, voyez, que Dieu nous a aimés. C'est ainsi que Dieu a aimé l'humanité tout entière, le monde dont il est question là. Les hommes, pourtant pécheurs, pourtant en révolte contre lui, pourtant même en guerre contre lui, n'est-il pas dit que nous sommes par nature des enfants de colère, des fils et des filles de la rébellion? Eh bien, ces gens-là que nous sommes, vous et moi, et tous les autres aussi, il les a aimés. Il n'a pas attendu que nous l'aimions, mais l'Écriture nous dit qu'il nous a aimés le premier, en donnant justement, en donnant ce qu'il avait de meilleur. Nous sommes habitués à ces vérités sans cesse répétées, ressassées de la parole de Dieu. Mais c'est vrai, il nous a aimés en donnant ce qu'il avait de meilleur, son Fils unique et bien-aimé. Rappelez-vous, lors de son baptême, la voix du Père s'est fait entendre, disant à propos de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Voyez, celui qui de toute éternité demeurait dans le sein du Père, c'est-à-dire celui qui était dans une parfaite communion avec le Père, ne faisant qu'un avec lui. Jésus dira, moi et le Père et moi, nous sommes un. Eh bien, celui-là, il nous l'a donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Où l'a-t-il donné? Quand l'a-t-il donné? Comment l'a-t-il donné? Pourquoi l'a-t-il donné? C'est ce que nous allons essayer de voir ce matin. Tout d'abord, il l'a donné où ça? On est à Noël, là. Où est-ce qu'il l'a donné? Oui, mais à Bethléem, il l'a donné où ça? Dans une crèche. Alors, quand même, tout le monde sait ça. Hein? Regardez, dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, verset 6, c'est écrit. C'est écrit. Évangile de Luc, chapitre 2, verset 6. Pendant qu'ils étaient là, Joseph et Marie, Marie et Joseph, puisque c'était le recensement ordonné par l'empereur romain. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né, elle l'amaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Dieu nous l'a donné dans une crèche. Ça, c'est l'incarnation, vous voyez ? Le Fils éternel du Dieu Tout-Puissant et Dieu lui-même, parce que Jésus possède à égalité avec le Père la pleine nature divine. Le Fils éternel du Dieu Tout-Puissant et Dieu lui-même, donc, se fait homme. Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. La parole a été faite chair. Et ce faisant, il se dépouille, non pas de sa divinité. Vous voyez, les Grecs, croyez qu'il y avait des êtres qui étaient à moitié homme et à moitié Dieu. Jésus n'est pas comme ça. Il n'est pas à moitié homme et moitié Dieu. Il est pleinement Dieu et il est en même temps pleinement homme, n'est-ce pas? Mais malgré tout, eh bien, il se dépouille de l'éclat, du rayonnement de sa gloire céleste et assume la condition humaine. L'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, nous dit que Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, une condition de serviteur, et il a paru comme un simple homme. D'autres traductions disent comme un vrai homme, comme un vrai homme. Alors pourquoi? Pourquoi? Eh bien, selon son décret éternel, Dieu a-t-il choisi de faire en sorte que, en Jésus, la divinité soit incarnée? Pourquoi? Pourquoi? D'abord, il y a identification. Voilà, il a été comme nous. Comme nous. C'est extraordinaire de savoir que Jésus a été comme nous, voyez? Ce petit enfant-là dans la crèche, il est pleinement humain. Il pleure, il crie, etc., etc., il tète, excusez-moi, mais il est Dieu en même temps. C'est extraordinaire. Il s'est identifié à nous. Et l'Écriture dira qu'il fut tenté ou éprouvé, puisque c'est le même terme dans l'original, comme nous, en toutes choses, sans commettre toutefois de péché. Ce que nous connaissons, ce que nous éprouvons, ce que nous subissons en tant qu'êtres humains, à l'exception du péché, Jésus l'a connu. Tout. Il n'est pas une expérience humaine que Jésus n'ait pas touché du doigt, que Jésus n'ait pas vécu. Il n'a pas été épargné par la tentation, vous le savez. Il était comme nous. Je peux me reconnaître en lui. Je peux m'identifier à lui comme il s'est identifié à moi. Et puis, l'incarnation, c'est la manifestation de la compassion et du secours de Dieu. Parce qu'il est comme moi, il peut me comprendre parfaitement, et il peut aussi me secourir parfaitement. C'est l'Épître aux Hébreux dans laquelle nous méditons ces temps-ci, le vendredi soir, qui nous dit ceci, au chapitre 2 et au verset 17, « Afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. » Rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté ou éprouvé lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il me comprend. Il me comprend. Vous savez, c'est facile de dire à quelqu'un qui est dans la peine et la souffrance, je vous comprends. Ça ne coûte rien de le dire. Mais vous en conviendrez, pour comprendre parfaitement quelqu'un, il faut avoir vécu ce que lui-même est en train de vivre, oui ou non. Je ne peux pas savoir ce que c'est que souffrir d'une rage de dents si je n'ai jamais connu ça. Je peux dire à la personne, je vous comprends, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Par contre, lorsque j'ai fait une aussi douloureuse expérience, je peux dire, je vous comprends parce que j'ai vécu ça. Eh bien, Jésus a vécu ça. Pas la rage de dents, hein, mais tout le reste. Et non seulement il nous comprend, mais comme il est écrit là, il est en mesure de nous secourir. Auprès de lui, non seulement nous trouvons la sympathie, la compréhension, la compassion dont nous avons besoin dans nos détresses et nos souffrances, mais nous trouvons auprès de lui la délivrance, le secours, l'assistance, l'aide, le soutien et la consolation. Alléluia! Il y a tout ça dans le fait que Jésus soit devenu homme, le Fils éternel de Dieu. Et puis, disons-le aussi, en tant qu'homme, il a relevé le défi. Le défi qu'Adam, notre ancêtre, notre père à tous quelque part, avait perdu. Dans le sens qu'il a su vivre, lui, Jésus, sans commettre de péché, sans jamais céder au mal. Vous savez, quand Pilate a présenté Jésus à ses accusateurs, aux sacrificateurs, aux prêtres juifs, il l'a présenté en disant « Voici l'homme !» et sans le savoir. Pilate a prophétisé ce jour-là. Jésus, c'est l'homme, mais l'homme parfait, tel que Dieu initialement l'avait voulu. L'homme parfait, tel que Dieu le désire. Il a fallu qu'il soit un homme. Parce qu'il fallait que ce soit un homme qui affronte le diable sur son propre terrain, la terre, et triomphe de lui. Et il y a ces versets dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Matthieu, qui nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est étonnant, ça. L'Esprit de Dieu l'a amené, l'a conduit, l'a poussé dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable, parce qu'il fallait qu'il l'affronte. Et il fallait qu'il triomphe de lui. Et c'est ce qu'il a fait, gloire à Dieu. C'est ce qu'il a fait. Les tentations n'ayant pas été épargnées, mais les unes après les autres, et pas seulement là, dans le désert, mais tout au long de sa vie, il a su déjouer les pièges du diable. Il a su triompher de lui. Il a triomphé pour nous. Alors Dieu nous l'a donné dans une crèche. C'est l'incarnation. Où est-ce que Dieu nous l'a donné encore? Il nous l'a donné sur la croix. Il nous l'a donné sur la croix. Après l'incarnation, c'est l'expiation et la rédemption qui ont été accomplies et réalisées. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, au verset 23, nous trouvons ces paroles de l'apôtre Paul. Romains, chapitre 3, verset 23. Il dit ceci, « Car tous ont péché, et oui, hélas, je suis concerné par ce verset, moi aussi, et vous aussi. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Mais heureusement, il y a la suite. Hein. « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, nous y voilà. » Voilà la croix. Voilà le don de Dieu. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, Jésus donc, que Dieu, le Père, a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire ou expiatoire. La rédemption dont il est question ici, c'est le rachat. C'est le paiement d'une dette. C'est l'acquittement d'une dette. Il nous a par sa mort, sur la croix donc, où le Père nous l'a donné, il nous a racheté de nos péchés. Il a lui-même payé la dette colossale que nous avions contractée envers Dieu du fait de nos péchés. et que nous étions dans l'impossibilité absolue de régler. Nous ne pouvions pas et nous ne pourrons jamais nous acquitter par nous-mêmes de cette dette du péché. L'Écriture dit que personne ne sera déclaré juste aux yeux de Dieu par ses œuvres. On ne peut pas payer. On ne peut pas payer ça. Alors, puisqu'on est ruiné, spirituellement, vous comprenez, il a payé la dette à notre place. À notre place. Sa mort sur la croix n'a pas été une mise en scène. Voyez, destinée simplement à nous émouvoir, à émoustiller nos sentiments. Le pauvre, il a souffert, oui, d'accord. Il a souffert, mais d'autres ont souffert. Mais sa mort fut spéciale. Sa mort fut unique. Dans le sens que, au-delà de la souffrance physique, bien sûr que c'est affreux, la croix. Mais il y a tout le reste, le plus important. Le poids de nos péchés qui a pesé sur la personne de Christ. Vous savez, à Gethsémané, quand Jésus livre ce combat, contre lui-même finalement, contre sa propre nature d'homme, voyez, où il dit, « Ah, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois, ajoute-t-il, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Quelle était cette coupe? Seulement la souffrance physique? Non, 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 non. Pas ça avant tout. Mais la coupe qu'il lui fallait boire, c'était la coupe de la colère de Dieu, qui devait reposer sur lui parce qu'il se chargeait de nos péchés. Il se chargeait de nos péchés. Sa mort n'a pas été une mise en scène, mais c'était une nécessité. Jésus n'est pas mort simplement pour nous impressionner. Plaise à Dieu que sa mort nous impressionne et touche notre cœur, que nous puissions dire « Il a fait ça pour moi ». Mais c'était une nécessité. Vous rappelez quand Jésus a rencontré les deux marcheurs, les deux pèlerins d'Emmaüs, là, qui étaient tout tristes le soir de la résurrection. Et Jésus leur a expliqué le sens de sa mort en disant « Mais ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses ?» et qu'il entre dans sa gloire. Pourquoi a-t-il fallu? Parce que Dieu est saint. Vous savez ça? Dieu est saint. Et de ce fait, sa justice doit s'exercer. Dieu ne peut pas, ce serait contraire à sa nature divine, à sa sainteté. Il ne peut pas fermer les yeux sur le mal. La sanction, le châtiment mérité doit s'appliquer. Dieu ne peut pas absoudre. Dieu ne peut pas pardonner le coupable si quelqu'un ne paie à la place du coupable. Pour lui, c'est ce que Jésus a fait. C'est pour ça que le pardon est possible. Quand Dieu pardonne, ce n'est pas qu'il passe l'éponge. Allez, où on efface, on recommence à zéro, mais on ne recommence pas. Hein. C'est plus que ça. Si le pardon est possible, c'est parce qu'il a pris en lui-même le châtiment. Il a assumé la responsabilité de nos péchés. On peut dire qu'il a pris à son compte le châtiment que nous méritions. Et ce châtiment du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi il est mort. Et en mourant de la sorte, Jésus a satisfait la justice divine. Voilà. La justice divine est satisfaite. La sanction a été appliquée. Le péché, en la personne de Jésus, a été puni, châtié, condamné. Je puis être pardonné. La justice, d'une part, et l'amour de Dieu, d'autre part, se réalisent au travers de la croix. D'ailleurs, l'Épître aux Romains nous dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Dieu prouve son amour envers nous dans ce fait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ce faisant, il nous a arrachés au péché, à sa domination. Alléluia! Parce que dans le salut, il y a plus que le pardon, il y a le changement de vie, il y a une délivrance, il y a un affranchissement, oui ou non? Dieu nous a pris comme nous étions, c'est pas vrai? Mais il ne nous a pas laissés comme nous étions. Il s'est opéré quelque chose dans notre cœur, dans notre vie intérieure. Comme quelqu'un l'a signalé dans sa prière tout à l'heure, nous, nous, Nous ne pouvons plus supporter le péché. Nous le haïssons, pas celui qui est dans les hommes, mais celui qui se trouve en nous. Nous le rejetons, nous le refusons. Il y a pardon, il y a délivrance. Il nous a pardonnés, sauvés, délivrés. Il nous a arrachés à la mort. Gloire à Dieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, au verset 24, nous trouvons cette magnifique parole du Seigneur Jésus qui dira « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Amen. Ailleurs, dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 11, il dira « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Celui qui vit et croit en moi vivra quand même, il serait mort. La mort n'est plus la mort. Ce n'est qu'un passage dans l'éternité glorieuse. Il nous a fait don de la vie éternelle. Et puis, il nous a arrachés par sa mort au pouvoir de Satan. N'est-ce pas ? L'Épître aux Colossiens, au chapitre 1er, verset 13, il est dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Vous savez, l'apôtre Jean, dans son épître, dira que le monde entier est sous la puissance du malin. Tous les hommes, quel que soit leur statut social ou autre, leur origine ethnique ou religieuse, sont dominés par le diable. Jésus ira jusqu'à dire à ses contemporains, vous avez pour père le diable. Voilà, toute la société humaine est sous cette chape de béton, si, et pire que ça, cette puissance ténébreuse qui domine l'humanité. Mais par la croix, le Seigneur nous a affranchis. Alléluia. Et nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai un autre maître. Autrefois, Satan était mon maître. Mais oui. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui est mon maître. Il n'y a pas d'autre alternative que celle-là. Si Jésus n'est pas ton Seigneur, c'est Satan qui domine ta vie. Et si Jésus est ton Seigneur, Satan est expulsé de ta vie. Il n'a plus de pouvoir, il n'a plus d'autorité, il n'a plus d'influence, si tout au moins tu lui résistes par la foi dans le nom de Jésus. Il nous l'a donné sur une croix. Il nous l'a donné sur une croix. Alléluia. Mais ce n'est pas tout. Il nous l'a donné où ça encore? Eh bien, il nous l'a donné dans une tombe. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que la tombe est vide. Gloire à Dieu. Regardez dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28 et au verset 1er. Matthieu, chapitre 28, verset 1er, il nous est dit ceci. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, le dimanche donc, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient revoir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Amen. L'ange n'a pas roulé la pierre pour permettre à Jésus de sortir du tombeau. Non, il était déjà sorti. Il a roulé la pierre pour démontrer que le tombeau était vide. Vous comprenez ça? Pour démontrer que le tombeau était vide. Dans un autre évangile, l'ange dit aux femmes qui sont venues embaumer le corps du Seigneur, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Alléluia! La tombe est vide. C'est la preuve, tout d'abord, qu'il est bien ce qu'il a prétendu être. Vous savez que pour les Juifs, du temps où Jésus était sur la terre. Et encore aujourd'hui, Jésus est un imposteur. Jésus, excusez-moi l'expression, pour eux est un charlatan. Mais non, il est vraiment ce qu'il a prétendu être. Il est le Fils de Dieu. La preuve en est qu'il est ressuscité des morts. Épître aux Romains, chapitre 1er, nous dit qu'il fut déclaré Fils de Dieu selon l'esprit de sa résurrection, selon l'esprit de sainteté, pardon, par sa résurrection d'entre les morts. Non pas qu'il est devenu Fils de Dieu du fait de sa résurrection, mais sa résurrection a démontré, a confirmé le fait qu'il est effectivement le Fils de Dieu. Alléluia. Il n'est pas un imposteur, un mystificateur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le Fils de Dieu, le Fils unique et bien-aimé. C'est la preuve aussi, sa résurrection. Mais c'est la preuve qu'il était sans péché. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, et qu'il n'était pas pécheur, la mort n'a pas pu le retenir. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça qu'il est ressuscité. C'est la preuve que le sacrifice qu'il a offert en se donnant lui-même sur la croix a été accepté par le Père. Je peux être sûr d'être sauvé, non seulement parce que Jésus est mort, mais l'apôtre Paul dira bien plus, il est ressuscité. Je suis sauvé à la fois par sa mort, et je suis sauvé également par sa résurrection. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4 et au verset 25, voici, n'est-ce pas, ce que l'apôtre présente comme argument. Il dit, le Seigneur, voilà, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification, c'est-à-dire pour notre salut. Sauvé par sa mort, sauvé par sa résurrection. La résurrection, c'est comme un sceau divin qui a été appliqué sur ce fait. Oui, comme si Dieu disait, je reconnais la valeur absolue du sacrifice de mon Fils bien-aimé accompli à la croix du Calvaire, valeur absolue de ce sacrifice pour effacer tous les péchés de tous les pécheurs qui se repentent et qui croient. Et je témoigne de la valeur de ce sacrifice en le ressuscitant d'entre les morts. Et désormais, ceux qui croient ont accès au salut. Et puis, sa résurrection, c'est la garantie de notre propre résurrection. Amen. De notre propre résurrection. Car pour le croyant, je veux dire le vrai croyant, celui qui a foi, pleinement foi en Jésus, la mort n'aura pas le dernier mot. Voici ce que l'Épître aux Thessaloniciens nous dit, chapitre 4, verset 13. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Ok, on le croit ça. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Béni soit Dieu. La mort n'aura pas le dernier mot. Bien après que notre organisme actuel se soit dissous dans la terre, bien après que la terre soit retournée à la poussière, comme il est écrit, puisque nous sommes sortis de la poussière. Bien après cela, quand Jésus reviendra, si entre-temps nous avons à passer par la mort, il ressuscitera nos corps mortels, en le rendant semblable au corps de sa gloire. Alléluia. Un corps tout neuf. Il n'y aura plus de problème. Il n'y aura plus de lassitude, de fatigue, de douleur, de souffrance, de vieillissement. Nous connaîtrons, n'est-ce pas, une jeunesse éternelle, en quelque sorte. Une force, une énergie, une vitalité céleste, une gloire céleste aussi. Et nous vivrons sans fin, éternellement, dans un bonheur parfait. Vous y croyez à ça? Alors, si vous y croyez, vivez pour ça, frères et sœurs. Ne soyez pas comme une espèce de fourmi là, qui s'agite hein, dans une fourmilière. Vous avez vu les fourmilières dans les forêts, elles étaient brrr, ça court dans tous les sens. Et des fois, eh bien, la race humaine, c'est comme ça, ça court dans tous les sens. Vous avez vu les fourmis, elles trimballent un tas de trucs. Hein, hein, ici, et puis là-bas, une graine là-bas, une graine ici. Waouh, quelle activité effrénée! Eh bien, on n'est pas simplement là à se tortiller, à se tordre sur la terre, mais nos yeux sont rivés vers le ciel, d'où Jésus-Christ apparaîtra. Gloire à Dieu. J'ai cette espérance, j'ai cette certitude dans mon cœur. Vous savez, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on collectionne les enterrements d'amis, de parents, de frères et sœurs en Jésus-Christ. Et parfois, eh bien, ces morts, ces décès nous occasionnent bien des peines, bien des douleurs, il y a de l'émotion. Il y a des gens qui disent, oh, mais du moment que c'est un chrétien, il ne faut pas pleurer, il est parti dans le ciel. Oui, d'accord, il est avec le Seigneur, mais il n'est plus avec moi. Hein. Alors j'en souffre. Oui ou non? Bien sûr, on est des êtres humains, quoi. Quand Étienne est mort, il est parti avec le ciel, c'est écrit, dans le ciel. Mais les chrétiens n'ont pas fait la fête en disant, youpi, gloire à Dieu, il est parti. L'Écriture dit qu'ils le pleurèrent à grand bruit. On a le droit de verser des larmes. Nous sommes encore des êtres humains. Voilà. Mais, voyez, ces amis qui m'ont quitté, eh bien, pour beaucoup d'entre eux, j'ai cette certitude qu'ils sont dans le royaume des cieux et que pour eux, tout est bien. Alléluia. Ils sont entrés dans la paix infinie du Seigneur. Il nous l'a donné donc dans une tombe, mais la tombe est vide. Et puis enfin, il nous l'a donné où ça? Sur un trône. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 21, voici ce que Jésus dira. Vous savez, c'est les lettres qu'il adresse aux sept églises. Et il dit ceci à l'une d'entre elles, de ces églises, justement, à la triste église de Laodicée. Chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, attention, hein, faut vaincre. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ça nous parle du règne. Il règne et il règnera pour l'éternité. Déjà, sa victoire nous est acquise et elle produira dans l'avenir, cette victoire, ses pleins effets. Le diable et les démons, alléluia, termineront leur triste carrière. Vous savez où? Dans les temps ardents de feu et de soufre. Et puis aussi, eh bien, les pécheurs qui auront refusé de se repentir et de croire en Jésus seront jugés et justement condamnés. Attention de ne pas faire partie de leur nom, mes amis. Si ce n'est pas encore le cas, ce matin, réglez avec Dieu la question de votre péché. Oh! Car l'Écriture nous avertit, justement, ça parle de trône. Apocalypse, chapitre 20, l'apôtre Jean nous dit, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis sur le trône. Et voici que devant lui comparaissent les morts, les grands et les petits. Des livres sont ouverts, et chacun est jugé selon ses œuvres. Ça prendra le temps que ça prendra. Dieu a le temps. Et tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie, tous ceux qui, par la foi en Jésus, n'auront pas fait la paix avec Dieu, tous ceux qui auront négligé, refusé obstinément de se repentir de leurs péchés, de changer de vie, de croire en Jésus, tous ceux-là seront, tout comme le diable et les démons dont nous avons parlé précédemment, seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Non pas pour être anéantis, non pas pour disparaître dans le néant définitivement et totalement, et pour être livré à des tourments incessants et extrêmes. Alors, faites la paix avec Dieu. Faites la paix avec Dieu. Et puis, eh bien, les effets de sa victoire déjà acquise seront que la terre et les cieux, d'à présent, seront détruits. Vous savez ça? Mais que Dieu recréera de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice de Dieu, sera établi, gloire à Dieu. Hein? sur la terre, c'est le règne de l'injustice. C'est vrai ou c'est pas vrai? Même dans notre pays, qui, ma foi, bon gré mal gré, est un pays démocratique, hein, il y a de l'injustice. Sans parler de tous les pays où c'est une pagaille encore plus grande que dans le nôtre. Mais mes amis, sous ces nouveaux cieux, sur cette nouvelle terre, la justice éternelle habitera. Il règnera, ne faites pas de soucis. L'épître aux Philippiens nous dit que tout genou fléchira. Je suis content de ça. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. De gré ou de force, toutes les créatures qui sont dans l'univers tout entier seront contraintes de reconnaître la seigneurie, l'autorité, la suprématie, la gloire de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et nous voulons le connaître et le reconnaître en tant que Seigneur, non pas de force, mais de bon gré. Alléluia. Non pas de force, mais de bon gré. En attendant, eh bien, il intercède puissamment et constamment pour nous auprès du Père. Et vous savez quoi? Non seulement l'Écriture dit qu'il règnera, mais que nous régnerons avec lui. « Je le ferai asseoir, dira-t-il, sur mon trône, celui qui vaincra. » Et nous régnerons avec lui pour l'éternité. Alors, en conclusion, pour bénéficier de toutes ces grâces, Dieu nous l'a donné dans une crèche, c'est l'incarnation. Il nous l'a donné sur une croix, c'est l'expiation et la rédemption. Il nous l'a donné dans une tombe, mais la tombe est vide, c'est la résurrection. Il nous l'a donné sur un trône, c'est le règne, pour bénéficier de toutes ces grâces qui sont communiquées par Dieu le Père en Jésus-Christ, que Dieu le Père met à notre disposition en Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jean 3,16, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben ouais, il faut croire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est que la foi? Ah, il y a beaucoup de confusion là. Hein? Bien des gens confondent la foi et la religiosité. La foi est une piété à l'eau de rose. La foi, c'est bien supérieur à un assentiment intellectuel, à une adhésion à la communauté des croyants, vous voyez. Si vous dites, oh, ces gens sont sympas, ces chrétiens vraiment sont pas mal, puis de temps en temps, il y a un petit casse-croûte, hein, alors ça me va bien. Je vais les rejoindre, tiens, vous n'avez rien compris, si c'est que l'objectif que vous avez. C'est pas ça, c'est plus que ça, c'est mieux que ça. Bien sûr, il y a la communion, il y a l'amitié, la sympathie, ce que la parole de Dieu a dit, appelle la communion fraternelle. Mais avant tout, vous voyez, croire, c'est faire confiance. Et vous savez quoi? Quand on fait confiance, qu'est-ce qu'on fait? On se donne. C'est pas vrai? C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer que les gens qui se mettent ensemble, comme on dit aujourd'hui, qui vivent sans se marier, puissent s'aimer véritablement. Parce que quelque part, il y a toujours une espèce de restriction. Quelque part, ça veut dire, je ne t'ai fait pas suffisamment confiance au point d'engager ma vie avec la tienne. Je me donne, mais jusqu'à un certain point. Pas totalement. Et si ça ne colle pas, hop, je reviens en arrière. Je reprends ma mise de départ. Ce n'est pas ça, l'amour. L'amour, c'est le don. L'amour, c'est faire confiance. L'amour, c'est croire. Et croire en Jésus, c'est se donner soi-même à lui, sans restriction, puisqu'il s'est donné lui-même tout entier pour nous, l'aimer, se donner, lui donner notre vie. Croire, c'est s'engager dans la voie qu'il a tracée pour nous. Attention, ce n'est pas un chemin facile. Il nous a expliqué le tarif. Jésus est toujours d'une franchise absolue. Il dit que la porte est étroite, et qu'en plus, le chemin est resserré, tu vois. Une fois que tu as franchi la porte, étroite, faut déjà passer par là, Eh bien, le chemin sur lequel tu vas t'engager est un chemin resserré. Et il y en a peu, dit-il, qui veulent avancer sur ce chemin. Serez-vous du nombre? Pourquoi resserré? Parce que c'est un chemin de renoncement au péché, certes, mais aussi à toute volonté personnelle. Je pensais ces jours-ci, là, hier, je crois, à ce texte où Jésus dit « Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » C'est ça, croire en Jésus. Qu'est-ce que c'est que la croix? Ça pourrait faire l'objet d'une autre prédication. La croix, ce n'est pas les petits pépins que je collectionne. La croix, c'est les souffrances que j'accepte volontairement, auxquelles je pourrais échapper, si je le voulais, mais je les accepte parce que je suis un disciple de Jésus. Si tu vis ta vie chrétienne dans la neutralité, en rasant les murs, si tu ne proclames pas ta foi, ta condition de chrétien, tu n'auras pas de problème. Si tu parles comme ceux du monde, si tu agis comme ceux qui ne connaissent pas Christ, tu n'auras pas de problème. Mais si tu te revendiques comme chrétien et tu vis en chrétien, si tu t'efforces d'être la lumière du monde et le sel de la terre, si tu dis non là où les autres disent oui, et si tu dis oui là où ils disent non, tu vas avoir des soucis. On va te montrer du doigt, te critiquer, te mépriser, te calomnier, te rejeter, te persécuter. C'est ça prendre sa croix. Et c'est ça croire en Jésus. C'est ça croire en Jésus. C'est ça s'engager sur le chemin étroit et resserré. Chemin d'obéissance. Chemin d'attachement de cœur permanent envers sa personne. La fidélité. Vous voyez, tiens encore l'amour. L'amour, ça va de pair avec la fidélité, non? C'est pas vrai? Ça marche pas trop comme ça aujourd'hui, c'est vrai. Un frère, un jeune frère en Avignon, disait ceci dans son travail. Il était pris à partie par ses collègues qui ne comprenaient pas qu'il était toujours avec la même femme. Excusez-moi. Comment t'es marié depuis 15 ans et t'es toujours avec la même? C'est pas normal ce truc-là, vous voyez? Mais c'est le monde qui est tombé sur la tête. L'amour, c'est la fidélité envers un homme, envers une femme, mais surtout envers Dieu. Tu t'es pas, je me suis pas engagé pour faire un bout de chemin avec lui, mais je me suis engagé avec sa grâce pour aller jusqu'au bout du chemin. La fidélité, la permanence. Comment se fait-il qu'il y ait tant de défections parmi nous? Comment se fait-il que pour un oui, pour un non, une petite vexation, un mot de travers, allez, on claque la porte et en plus on croit qu'on a bien fait? Comment se fait-il? Comment se fait-il qu'on se laisse ainsi impressionner, désarçonner, parce que ceci, parce que cela, parce que le reste, rester attaché à Jésus, un attachement indéfectible, permanent, constant. Et le Seigneur nous y aide, oui ou non? Alléluia! Parce que quand même, quand on s'égare, quand on trébuche, est-ce qu'il ne met pas tout en œuvre pour nous récupérer, oui ou non? Parce que nous lui sommes devenus infiniment précieux, et après nous avoir sauvés, il n'a pas envie de nous voir nous perdre. Alors il met tout en œuvre lorsque nous nous écartons à droite ou à gauche du chemin, vous savez, pour nous ramener dans la bonne voie. C'est un chemin de persévérance. Jour après jour, on réfléchissait là, il y a quelques semaines, sur Enoch. 300 ans de marche avec Dieu. 300 ans. C'est rien de le dire, 300 ans. Mais 300 ans par 365. Hein. Et chaque jour que Dieu a fait pendant ces 300 ans, Enoch a persévéré avec son Dieu. A contrario, je finis, refuser de croire, parce qu'il y a un verbe terrible là dans le verset. Vous n'avez pas remarqué? Eh oui, périr. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre possibilité. Si tu crois, tu seras sauvé, tu hériteras de la vie éternelle. Et Dieu t'a donné Jésus pour qu'il en soit ainsi. Si tu ne crois pas, avec tout ce que cela implique que nous venons de voir, tu seras perdu. Tu périras. Faites votre choix. Et si vous l'avez fait, persévérez dans le bon choix. Que le Seigneur soit béni. Prions-le, voulez-vous ? Notre Père, notre Dieu,